Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch ici toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE, Monday Night Raw, SmackDown et le show rouge, noir et or, pardon, le show jaune, NXT. On se retrouve après la grosse semaine WrestleMania. Donc tout ça, on vous l'a couvert dans nos différents podcasts. Donc, vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne YouTube et sur toutes les bonnes plateformes de podcasts. Hein, et vous pouvez aller écouter toutes nos reviews des deux nuits de WrestleMania, de NXT TakeOver, des pré-shows, etc., etc. En particulier, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est NXT TakeOver, pardon. Puisque voilà, c'est historique, hein, on est dans le NXT qui suit NXT TakeOver. Et pour m'accompagner, pour résumer, analyser tout ça, ce bon vieux papy, comment ça va, papy?
Bonjour, cet enfant, bonjour, Inkside. Ah, j'ai botché mon arrivée comme un brave.
Bah, c'est ça, mais après tout le boulot qu'on a accompli, c'est normal qu'on soit fatigué et qu'on botche un petit peu.
Bah voilà, c'est ça. Et puis c'est NXT, c'est le land of botchage, on est là pour apprendre.
C'est vrai, c'est un peu la formation pour nous. Donc on a le droit de faire des erreurs. Donc voilà, donc on est au sortir de TakeOver Stand and Deliver, c'est le fallout comme on dit, on était le 13 avril, on est maintenant le mardi soir pour NXT TakeOver, donc c'est fini la baston du mercredi, fini l'affrontement avec Dynamite, seul en scène NXT, donc du coup on va vous faire normalement plusieurs émissions, hein. On va essayer de vous débriefer NXT toutes les semaines. Il y a sûrement Tonton qui va s'occuper de vous parler de Dynamite toutes les semaines aussi, donc restez à l'affût. Pensez à cliquer sur la petite cloche si c'est pas déjà fait, comme ça vous serez averti dès qu'on a toutes ces nouvelles reviews qui sortent, ces nouvelles émissions. Pour NXT cette semaine, alors déjà tout seul face à personne, ça fait quelque chose comme 800 000 et quelques au niveau des ratings. Donc pas le carton qu'a fait Dynamite en parallèle, puisque Dynamite, ils ont dépassé le million, plus de 1 200 000 le mercredi. Donc visiblement, les fans de NXT ont été regardés voir ce qui se passait du côté de Dynamite, de la All Elite Wrestling. Mais par contre, au niveau d'NXT, il y a eu une montée d'audience, hein, ils ont gagné 100 000 téléspectateurs, quelque chose comme ça. Mais ça n'a pas encore atteint les sommets. Voilà, on surfe sur l'après-mania, on verra ce que les semaines nous disent, hein, au niveau de ces ratings. Mais pour l'instant, on commence dans le noir complet, cette émission, avec des chants NXT, évidemment, et l'arrivée, toujours en grande pompe, du nouveau champion, l'homme qui a réussi à vaincre Finn Balor à NXT TakeOver Stand and Deliver, Karrion Kross, toujours accompagné de Scarlett, qui arrive au ring et qui nous fait une belle promo en félicitant d'abord Finn Balor, en expliquant que c'était un des mecs les plus extraordinaires de la WWE, un des plus grands catcheurs de tous les temps, mais il a réussi à le vaincre. Finn Balor a un peu sous-estimé Karrion Kross en a profité, désormais c'est lui qui contrôle le show, il est affamé, il sait qu'il y a plein de monde, plein de catcheurs affamés tout autour de lui. Mais c'est le plus affamé de tous. Et désormais, c'est lui qui est aux commandes. Et si quelqu'un veut venir le chercher, il a qu'à venir le chercher. C'est lui le patron. Dans l'absolu, je crois que personne ne se présente. Mais en tout cas, c'est Karrion Kross désormais le patron d'NXT. J'ai l'impression qu'il y a un face turn un petit peu organique du côté du Karrion Kross. Je sais pas ce que t'en penses, papy.
Ouais, alors après, je me méfie toujours parce que là, on est en période post-takeover où finalement, t'as tous les mecs qui ont assuré un peu durant le pay-per-view qui sont un peu acclamés. On le verra tout à l'heure avec l'autre championne. Ouais, c'est toujours un peu particulier les lendemains de pay-per-view, comme les fins de pay-per-view, donc je vais pas m'enflammer sur un potentiel face turn ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a personne qui est venu relever son défi, et on se demande qui sera capable, du coup, dans le haut de la carte de NXT pour venir un peu venir le chatouiller.
Ouais, qui est assez crédible pour venir affronter Karrion Kross dans ce roster actuel de NXT? J'avoue que je sais pas trop. À mon avis, on aura un adversaire de transition, hein, juste pour asseoir un peu plus le règne de Karrion Kross, qui, j'ai l'impression, risque d'être assez long, hein, parce que je pense que c'est quand même un gros projet, Karrion Kross, pour la suite de TakeOver, enfin de NXT. Donc on risque justement de le voir main eventer. Bah, il a pas fait le main event, hein, au final, de Stead and Deliver, puisque le main event, c'était bien Adam Cole contre Kyle O'Reilly.
Tout à fait.
On a un résumé qui suit de TakeOver. Alors, c'est le TakeOver le plus vu de l'histoire, hein, on nous raconte. Parce qu'effectivement, c'est passé à la télé. Ce qui n'était pas le cas des NXT précédents. Et visiblement, le community manager de la WWE a beaucoup aimé, hein, NXT, parce oui. qu'il a tweeté beaucoup, hein, pendant les pendant l'émission. On a tous ces tweets qui sont représentés à l'antenne.
De temps en temps, voilà. T'as un tweet d'une autre boîte, mais la plupart, c'est comme lui qui dit « Oh là là, mais il était bien ce match, hein. Oui, oui, oui. »
Oui, 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 signé hashtag VVE. Bon, bref, voilà, bon, un petit résumé de tout ce qui s'est passé à TakeOver. On a notamment eu de nouveaux champions tag team, les MSK. Donc, c'est Carter et Wesley, hein, je crois qu'ils s'appellent. Un petit peu du mal à s'appeler leur nom.
Ouais, je retiens pas encore pour l'instant.
Nash Carter et Wesley, voilà, j'ai le nom sous les yeux. Donc, ils ont gagné, c'était un Fatal 4-Way, je crois, le match. Et
Non, il y avait que trois équipes.
T'as une triple frite, alors. Triple frite. Il y avait les Mexicains, les Gado del Fantasma. Et la troisième équipe.
Les Anglais, là.
Les Anglais.
Young Veterans.
Grizzly Young Veterans, ouais.
Voilà.
Bah, qui retourneront à NXT UK, hein, je pense, doucement. Pour l'instant, ce soir, ils doivent déjà défendre leur titre, MSKin, contre Drake Maverick et Killian Dane, qui ont gagné un title shot, je crois, dans le pré-show de TakeOver, que je n'ai pas vu.
Tout à fait, qu'ils ont battu Breezango, je crois.
Ah oui, Breezango, c'est ça. Et bah, du coup, ça va s'affronter ce soir. On a d'abord Killian Dane qui domine un petit peu. Et puis il fait le tag avec Maverick, alors je sais pas si c'est le plus intelligent à faire. Donc Drake Maverick dans le ring, il y a un gros botch là au début où il y a un surpassement par-dessus Drake Maverick, mais alors son adversaire lui tombe dessus, lui fait très mal à la nuque visiblement. Il a l'air un petit peu sonné Maverick pendant un moment. Il finit par faire le hot tag, ça va un petit peu dans tous les sens. Il y a un topé suicida qui est contré par Killian Dane. Faut savoir que MSK c'est une grosse équipe de voltigeurs, hein. Les deux, ils font des sauts dans tous les sens, surtout Wesley. Ça va un peu dans tous les sens. Il y a un gros running crossbody à l'extérieur du ring de Killian Dane sur un des deux MSK. Au retour de la pub, c'est Maverick qui domine, mais le tag finalement est fait du côté des champions. Il y a un joli corse crew splash pour le compte de deux. Ensuite, Killian Dane va écraser Wesley sur Carter ou l'inverse, je ne sais plus. Ça continue jusqu'à une grosse power bomb. De Killian Dane va ensuite utiliser Maverick un ustensile, hein. Il va le prendre en power bomb pour aller l'écraser sur ses adversaires, mais ses adversaires esquivent, donc finalement c'est juste une power bomb sur Maverick. Le match continue jusqu'à ce que, alors que Maverick est dans le ring, il y a un blind tag qui se fait du côté de MSK qui arrive à porter le finisher. Il y a un gros dive à l'extérieur du ring de Carter pour occuper Killian Dane pendant que Wesley fait le tomber, et c'est donc la victoire des champions MSK, MSKin. Mais la célébration est de courte durée, enfin non, eux ils célèbrent tranquillement. Par contre, c'est bien Imperium qui débarque pour attaquer Killian Dane et Drake Maverick. Alors c'est comment il s'appelle, Wolf, voilà, Alexander Wolf qui débarque. On dirait qu'il veut sympathiser avec Killian Dane, mais non, finalement c'est les deux autres qui débarquent et on tabasse Drake Maverick et Killian Dane. Voilà, bah, gros match pour démarrer le show. Et puis Imperium qui se rappelle à nous. Est-ce que ça t'a plu, toi, cette entrée en matière?
Moyennement, je trouvais que l'affiche, elle me faisait pas du tout rêver, là, pour le coup. MSK, j'ai, même si je sais qu'ils savent catcher, pour l'instant, j'ai encore un peu de mal à les identifier autrement que des gars en tout plus haut. Et d'ailleurs, je retiens ni les noms, ni je suis capable de les distinguer. Donc, ça aide pas trop pour l'instant. Et puis, alors, Kellyanne Dehn et Drave McGree, je trouve que c'est une équipe, enfin, c'est low card chez low card, quoi. Ça m'a fait super rêver. J'ai trouvé que le match, du coup, d'un peu long, parce que, à la limite, j'aurais préféré qu'il se fasse éclater, du coup, McGree et Dehn. Mais bon, après, c'était peut-être pour un opener dans un vrai match. Effectivement, il y a un mouvement au moment où on a peur pour Maverick parce qu'il prend bien l'autre gars sur la gueule. Mais ouais, je me suis pas méga enflammé, on va dire. Et puis la fin, c'est le petit clin d'œil en fait à Sanity, je pense, le fait que Wolf essaie de discuter avec Dane.
Ah bah oui, c'est vrai qu'ils étaient dans le même clan.
Voilà, mais alors, faut le chercher loin, parce que du coup,
j'avais Sanity, complètement oublié cette histoire.
Enterré, le pauvre. Mais bon, à part ça, voilà, quoi. Voilà. Imperium, j'ai plus envie de les voir eux catcher que Maverick et Dane, quoi.
Ouais, j'ai rien contre Drake Maverick et Kellyanne Dehn, mais c'est sûr qu'ils ont fait l'ascenseur entre le main roster et NXT. Et du coup, on sait quand même qu'ils vont pas, ils vont jamais faire quelque chose de bien transcendant avec eux, hein, je pense. Donc, est-ce qu'ils bouffent pas du temps d'antenne pour des gens qui auront peut-être plus d'avenir? Ça serait vraiment intéressant, voilà, s'il y avait un gros projet Drake Maverick, Kellyanne Dehn, si ça allait quelque part. Mais visiblement, il y aura une rivalité avec Imperium, jusqu'à ce que je pense Imperium parte à la chasse aux ceintures, hein, contre Meskin, les MSK.
Meskin,
il manque un petit peu de personnalité, ces champions. C'est des mecs qui sortent partout. Ils me font penser au Motor City Machine Gun. Je sais pas si tu vois, c'est Impact. Ça me fait penser à ça, à leur catch, moi. Ça saute dans tous les sens, ça s'enchaîne. Mais c'est pas très stiff, quoi.
Bon, après, c'est une belle carrière, les Motor City Machine Gun, au final.
Pardon?
À Impact. Ils ont fait une belle carrière à Impact, quand même.
Ouais, ils ont fait une belle carrière à Impact. Ouais.
Mais.
Non, c'était une des équipes les plus cool qu'il a jamais fait. Ouais, voilà, s'ils arrivent à faire. Bon, je pense qu'ils vont aller assez loin, quand même, du fait de leur. À moins qu'il y en ait un qui se tue dans une de leurs prises à la con. Mais...
Je pense que
c'est une équipe à suivre. Donc voilà, bon, on espère que ça va être un peu plus enlevé, là, cette rivalité entre Kellyanne Dehn et Maverick et Imperium. Bon, c'est Drake Maverick, c'est gentil, mais on a aussi, on verra un peu plus tard, Leon Ruff. On aimerait bien avoir des vrais gaillards, quoi, dans le roster, quand même. Dans les vestiaires, qu'est-ce qui se passe? On a Robert Stone qui est accompagné d'Alia. Ils sont là, ils font les cons. Et puis, il y a Mercedes Martinez qui débarque. Et elle veut son fric. Apparemment, Robert Stone lui doit du fric. Donc, il dit, ça doit faire plusieurs semaines que ça court. Il dit, tu me rends mon fric maintenant. C'est toujours la même histoire. Elle étrangle Alia au passage. Elle lui met la main autour de la gorge. Là, elle fait très bien la fille qui s'étrangle, Alia. Là. Et puis, il y a une certaine Jessica Mea qui débarque.
Oui.
Et qui vient défier Mercedes Martinez. Elle dit, tu vas te calmer, tout ça. Et Mercedes, elle dit, tiens, on va aller régler ça dans le ring, hein, ce soir. Et on aura un match un peu plus tard dans la soirée. Bon, petit segment backstage qui fonctionne plutôt bien, je trouve, pour de la low card.
Ah oui, c'est de la low card, chez low card. Alors, je t'ai senti un peu perdu dans les personnages. Donc, en fait, c'est parce que Jesse et Kamaya, là, et Kamayeux, et Aliyah, ils font partie du Robert Stone Band.
Ah, d'accord, elle fait aussi partie.
Les deux sont managés par lui. Et je sais plus contre qui, tu vois, je commence à perdre la mémoire aussi. Ils avaient recruté Mercedes Martinez en échange de pognon pour aller casser la gueule à je ne sais plus quelle catcheuse. Et donc c'est pour ça qu'elle réclamait son dû, Mercedes Martinez.
D'accord, c'est pas sorti de nulle part.
Alors, par contre, c'est la low card de chez low card, comme tu disais.
D'accord, bon, bah après, bon, autant Alia, ça fait 10 ans qu'elle est là. Je remarque qu'elle a dû se faire refaire le visage, je pense, ou un truc comme ça, parce que elle a plus le même visage qu'avant.
Elle a grandi.
Mais hein, elle a grandi peut-être, tout simplement. Par contre, Jessica Mea, je vois pas du tout qui c'est. C'est la première fois que je la vois. Elle a peut-être fait partie du Mayhem classique, ou je sais pas, mais
c'est une grande volleyeuse, je crois, ex-volleyeuse.
Ah d'accord. En tout cas, costaud. Elle est costaud. Roderick Strong. arrive au building avec sa femme Marina Shafir. Alors il est tout beau en costume, elle aussi, elle est toute maquillée, toute pimpante. On en saura un petit peu plus sur cette histoire plus tard. Je sais que t'adores toi Roderick Strong, donc.
Ah c'est mon chouchou. Hein.
Je pense que le
suspense. Son arrivée là, ça a transpiré le charisme son arrivée.
On aurait dit Triple H, hein, quand il débarque en limousine et tout. Ça va casser la baraque. Allez, on nous remontre Cole versus O'Reilly. Adam Cole, j'allais dire Michael Cole. Adam Cole, baby, se sont affrontés dans le main event de NXT TakeOver Stand and Deliver. Alors, ça a cassé la baraque, hein, ils ont tout détruit, ils se sont fait du mal au point qu'ils sont sortis tous les deux en brancard. C'est O'Reilly qui a gagné le match. Adam Cole, il continue à l'insulter tout du long qu'ils sont ramenés en brancard. Il lui dit t'es fini, t'es une merde, je vais te détruire, je vais en finir avec toi. O'Reilly, il est un peu stoïque, hein, il dit rien, il est lessivé. C'est peut-être pas fini entre ces deux-là.
Malheureusement,
bon, bah, allez, on va tirer encore un petit peu sur la corde. Kyle O'Reilly, voilà un mec qui peut aller affronter Karrion Kross.
Ah bah moi, ce que je disais soit bah, maintenant pour ce gars-là. Soit tu le fais monter, soit tu le mets en top babyface. Parce que là, sinon, il n'y a plus rien du tout à raconter à NXT, à part ça. Il n'a jamais eu son gros méga run solo en tant que top, top, top.
Ouais.
Je pense que là, il le mériterait, vu son parcours de l'année écoulée. Mais hormis ça, et par contre, Cole, bah, du coup, je m'inquiète, quoi, parce que moi, j'espère qu'il s'éloigne vite d'O'Reilly pour justement laisser l'autre étendre ses ailes. Commence à venir l'emmerder encore un peu, ça me rassure pas des masses, quoi.
Ouais, c'est très compliqué ce booking d'NXT, parce que depuis que les gens ne montent plus dans le main roster, une fois qu'ils sont arrivés au top, on sait pas où ils vont, hein. Donc on ne peut que se poser des questions. Là, on a fait le tour de l'Undisputed Era, je pense que c'est terminé. On va les faire partir en solo chacun de leur côté. Mais est-ce qu'ils vont aller se casser les dents sur Karrion Kross? C'est la grande question. Bon, il reste un Johnny Gargano qui est quand même assez prenable, je pense, pour aller décrocher une petite ceinture qui sert à rien, là.
Mais Gargano est déjà lui-même chiant. C'est lui-même en...
Bah, lui, il est dans l'impasse. C'est ça. Donc, est-ce que l'histoire va se répéter avec le reste de l'Indisputed Era? On verra bien. On vous l'a promis, le voilà, Jessica Mea contre Mercedes Martinez. Alors, Mercedes Martinez est dominée pendant un bon moment. Bon, c'est un match assez court, hein, mais elle est quand même dominée en début de match jusqu'à ce qu'elle réussisse à placer son running knee et qu'elle enchaîne sur son finisher, donc en gros deux ou trois gros moves. Hein, et elle réussit à faire le tomber sur Jessica Mea. Son finisher, c'est pour la victoire. Ensuite elle descend hors du ring, elle va chercher Robert Stone et elle lui prend son fric dans une séquence un petit peu malaisante, j'ai trouvé. Et ensuite elle lance un défi à Raquel Gonzalez. Elle va voir les commentateurs et elle dit: Raquel, j'ai vu que t'étais contente, mais maintenant je viens te chercher. Donc elle se place dans la course au titre, la vétérante Raquel Gonzalez. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Ouais, vas-y.
Non, mais effectivement c'est elle joue pas dans la même catégorie, hein. Là c'est low cardeuse versus une fille qui... Bon, Mercedes Martinez, c'est pas une main eventeuse non plus, mais par contre, elle est plutôt montrée comme balèze, quoi. Donc, elle avait fait un triple threat avec Yoshirai et Tony Storm, de mémoire, qu'elle avait perdu limite.
Ouais.
Donc ouais, elle est... Je pense que pour le coup, on parlait tout à l'heure chercher un premier concurrent pour Karrion Kross. Bah, pour le coup, pour Raquel Gonzalez, Mercedes Martinez, c'est très bien, quoi. C'est la fille forte, mais pas trop.
Ouais.
Elle fera bien l'affaire, quoi. Donc là, pour info, le match, 1 minute 53. Ça quand même était
Ouais, c'était encore beaucoup plus court que ce que je pensais.
Voilà, quand même, un petit squash quand même des familles, quoi. Ce qui est logique, parce que Jessica Mea, franchement, elle sait pas faire grand chose pour l'instant. Elle est vraiment green, green de chez green. Donc voilà, je suis pas plus choqué que ça. Limite, elle sur place bien Mercedes Martinez avec ça.
Ouais. Ouais, après, je pense qu'il y a quand même de l'avenir, là, pour la nouvelle. Il y avait quelques jolis gros moves. Elle a un physique quand même assez impressionnant. Elle est costaud. Le genre de catcheuse qu'ils aiment bien à la WWE. Je pense qu'on est amené à la revoir.
Yes, après elle a démarré tard sa carrière, donc je...
Ah bon, non, alors elle va se blesser et puis on...
Enfin, dans la prochaine charrette. Elle a 32 ans, elle est débutante et elle a jamais vraiment catché ailleurs, donc j'espère qu'elle va se sortir, hein. Il me semble que Charlotte aussi était pas du tout issu du monde du catch, qui avait démarré assez tard.
Ouais, ouais. À la WWE, ils aiment bien voilà, prendre des mecs qui viennent pas du monde du catch et en faire des stars. Ça, c'est quand même leur truc. Si elle a les compétences physiques, ça peut fonctionner, hein, y a pas de raison. En tout cas, moi, je trouve qu'elle a un physique qui colle bien, quoi. Elle a le physique pour le taf. The Way. Vous vous souvenez de ce clan? Notre ami Johnny Gargano, Austin Theory, comment elle s'appelle, la meuf à Gargano, Leray, là.
Je vais sûrement. Candice Leray.
Candice Leray. Et Indy Hartwell, elle s'appelle, la quatrième, c'est
oui.
ça hein. D'accord. Donc, ils font une petite promo où ils racontent à peu près n'importe quoi. Je crois qu'il y a Indy Hartwell qui a un crush sur Dexter Lumis, si j'ai bien compris.
Oui, depuis longtemps, ouais.
Ça fait un bon moment, ok, parce qu'ils sont en feud avec Dexter Lumis, hein. Plus ou moins, surtout Austin Theory qui s'est fait kidnapper, je crois, une fois, plusieurs fois, yes. passé à tabac. Et bon, à la fin, ils partent, et puis et Austin Theory va dans le mauvais sens, alors ils sont obligés de le rappeler. C'était assez rigolo, ils sont vraiment dans le comedy wrestling, hein, finalement, ce clan-là.
Oui, oui, surtout, et surtout les deux jeunes, en fait, finalement, parce que... On a quand même des gars qui ont 10 ans de l'écart entre Austin Theory, Indy Hartwell versus Candice LeRae et Johnny Gargano. Mm. 23-24 ans pour les jeunes et 34-35 pour Candice LeRae et Johnny Gargano. Et donc, c'est vraiment les deux jeunes qui sont à fond dans le comédie, dans l'affaire. Et t'as l'impression qu'ils sont cornaqués par les deux autres, en fait.
Ouais. Ouais, ouais. Il y a un Gargano qui essaie de rester un peu... dans le mode sérieux, mais bon, ça. Ah, je sais pas si c'est une grande idée de mettre Austin Theory avec Gargano pour apprendre des trucs, etc., etc. Parce que, à part lui apprendre à rester à NXT, je sais pas qu'est-ce qu'il pourra lui apprendre de spécial. Hein, Gargano, il a pas, c'est pas non plus une promo sensationnelle.
Oui. Non, et puis il y a pas. J'en parlais à Takeover, moi je trouve qu'il a, il raconte pas une histoire. Il raconte pas les bonnes histoires dans le ring.
Donc, ouais. Bah encore une fois là,
il
Takeover.
Fait du face, il fait du heel, enfin, il est toujours à côté un peu à côté de l'histoire quoi.
Ouais, c'est vraiment, il est vraiment au bout de course Gargano. Alors pourtant, il est hyper talentueux dans le ring. Du moins quand il raconte la bonne histoire. Hein. Mais voilà, c'est ça la Big League. C'est pas si simple. On les reverra en main event hein, du coup The Way parce qu'il y a un match intergender finalement. Avec d'un côté The Way et de l'autre comment il s'appelle le gros
Bronson Reed.
Bronson Reed, merci. Bah Dexter Lumis du coup et les championnes donc Shotzi Blackheart et
Ember
Moon. Voilà, ce sera le main event de la soirée. Pour cette première nuit sans face-à-face avec Dynamite. Voilà ce qu'on nous propose à NXT. On nous propose aussi Swerve, Isaiah Scott, c'est ça hein, son nom.
Isaiah Swerve Scott,
qui est un ingénieur du son apparemment. Et il nous explique qu'il va régler son compte à Leon Ruff. Leon Ruff, c'est comme un peu Leo Rush, mais en moins bien quand même. Donc ça, ce sera le match pour plus tard dans la soirée. Hein. Ils vont régler leur compte, Isaiah Swerve Scott et Leon Ruff, parce qu'apparemment, ils ne s'aiment pas beaucoup, hein, les deux-là. On les a vus aussi à TakeOver.
Ouais, ça fait ouais. quelques semaines qu'ils se tournent autour. Bon, c'est des ex-grands copains devenus ennemis, mais c'est encore une fois, hein, low card de power dans ce NXT.
Ouais, ça, c'est des matchs qu'on voit à 205, hein, d'habitude. Mais bon... C'est le grand soir, c'est le lundi sans concurrence. Donc, on aura un bon Isaiah Swerve Scott contre Leon Ruff. Mais passons un petit peu aux choses sérieuses. Santos Escobar, l'Undisputed Cruiserweight Champ. Et on en est là, hein, Undisputed Cruiserweight Champ. Accompagné donc de son clan Legado del Fantasma, il arrive au ring, il nous explique que voilà, il a gagné, il est le champion Cruiserweight Undisputed, puisqu'il a battu... alors décidément, j'ai pas les noms aujourd'hui. Comment il s'appelle
merde, j'ai plus non plus celui-là. David, Palin...
Jordan Devlin, voilà. Donc l'Irlandais, hein, qui était Cruiserweight jusqu'ici, ils avaient comme il y a eu la pandémie, alors du coup, ils avaient mis un champion temporaire qui était Escobar. Et l'unification des ceintures, ça a eu lieu à TakeOver dans un match de l'échelle. Et c'est bien Santos Escobar qui a gagné, grâce à l'intervention de Legado del Fantasma hein, quand même. Mais bon, il explique que voilà, c'est dans sa famille d'être champion. Son père était champion avant lui, son fils sera champion après lui, et il veut être un champion combatif. Donc ce soir, il lance, il n'a pas le temps de finir, il va lancer un Open Challenge qui a déjà la musique de Kushida qui retentit. Le japonais débarque, c'est lui qui va prendre le title shot ce soir. La bonne nouvelle, c'est qu'il est enfin en short de combat. Donc ça me fait plaisir, ça fait plaisir à Tonton aussi, qu'il a demandé de ses voeux. On a enfin un Kushida en short et pas en jeans. Y a un gros match hein, qui s'ensuit avec un Kushida qui déroule à fond. On a Santos Escobar aussi qui fait du grabuge. On va notamment aller à l'extérieur du ring. Là, Escobar va écraser Kushida contre l'escalier de fer et puis il va lui faire un Lion Tamer en quelque sorte sur l'escalier de fer avec la tête coincée dans le poteau là. C'est bien douloureux pour Kushida, mais ça suffira pas évidemment à clore le match puisque il peut pas abandonner l'extérieur du ring. On enchaîne. Alors vraiment des gros moves dans tous les sens. Hein. C'est quand même deux catcheurs assez complets ces deux-là. Et finalement, sur un petit paquet d'un côté, petit paquet de l'autre, roll-up sur roll-up, c'est Kushida qui réussit à arriver les épaules au sol de Santos Escobar et du coup de devenir le nouveau champion cruiserweight de NXT. Il y aura une petite séquence après où Kushida est félicité par William Regal et Jordan Devlin débarque et il vient défier le nouveau champion Kushida. Hein. Il rappelle le palmarès de Kushida, je crois que c'est 6 fois Junior Heavyweight Champion à la New Japan Pro Wrestling. Et désormais champion Cruiserweight de NXT. Le défi est lancé, hein, mais comme Kushida parle pas anglais, on n'est pas sûr qu'il ait compris, mais il y aura sûrement un match bientôt entre Jordan Devlin et Kushida. Et donc voilà la défaite d'Escobar après sa grosse victoire à TakeOver. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match ?
Défaite grosse surprise hein, déjà, parce que Escobar qui semblait ultra dominant, qui venait de réunifier les ceintures, deux jours après, une semaine après, vu que c'était en milieu de semaine, il se dit tiens, je vais genre faire un match tout de suite, et puis boum, il paume ce couillon.
Il paume.
Alors il fait la même technique qu'il a fait à TakeOver, c'est renvoyer ses copains. Alors TakeOver, il s'en était sorti in extremis malgré avoir renvoyé ses copains. Là, ça lui coûte la ceinture. Le match était bien. Alors j'ai encore un petit peu de mal avec Kushida en face en fait. J'ai du mal avec son catch. Je trouve qu'il s'y prête pas trop. Après, j'ai souvent ce sentiment-là quand je vois des mecs qui font beaucoup de soumission en fait. J'ai toujours tendance à associer soumission avec une technique un peu plus heal. Un Del Bryan, je trouve qu'il fait moins de soumission quand il est face et quand il est heal, tu vois. Il fait plus de mouvements un peu plus impactants quand il est face que quand il est heal. Et là, je trouve que Kouchev a encore beaucoup trop de soumission. Ça me faisait un peu pareil Pete Dunne d'ailleurs, qui est un peu son pendant. Par contre, je suis content qu'il aille dans cette division Kouchida, parce que franchement, je trouvais qu'il servait vraiment à rien depuis qu'il était NXT. Il était peut-être juste en période de rodage à faire enchaîner les quelques matchs comme ça pour ce rodo style WWE. Il a fait un match que moi personnellement j'avais trouvé insipide à TakeOver parce que justement c'était il apportait rien, il n'y avait pas de personnalité, c'était trop techniquement, mais je voyais pas ce qu'il faisait là ce match-là. Et donc là il se lance dans la division Cruiserweight, je pense que du coup ça peut être intéressant pour lui pour continuer à enchaîner des matchs contre des bons techniciens et puis du coup peut-être développer un peu plus son personnage et effectivement plus être juste le gars en jean qui vient déguisé en Marty McFly quoi. Donc voilà, et puis pour Escobar je sais pas du tout ce qu'ils vont faire avec lui parce que j'ai du coup comme Kushida est parti directement sur Devlin derrière, j'ai l'impression que Escobar va directement se barrer de la division Cruiserweight. Alors est-ce que t'es pour être promu vu qu'il manque des latinos maintenant dans le main roster vu que notre ami Andrade est parti? Est-ce que ça serait pour justement faire office de premier adversaire à Karrion Kross vu qu'il s'était un peu chamaillé quelques semaines avant TakeOver? Je ne sais pas, les deux pistes me semblent valables et les deux pistes me plairaient assez je trouve.
Ouais, bon, Santos Escobar, Karrion Kross, ils ont dû se croiser au Mexique je pense déjà, donc ils doivent se connaître un petit peu. Il y avait un petit sentiment aussi de passage Babyface là pour Escobar, ce qui est toujours un peu idiot quand t'as un clan derrière toi, mais bon, on n'est pas à une ineptie près. Ouais, Kushida champion cruiserweight, c'est plutôt cool. Moi, en regardant le match, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. Moi, je suis toujours un peu dépité qu'on puisse pas voir ça à Monday Night Raw. En fait, je trouverais que ça aurait parfaitement sa place dans la première heure de Monday Night Raw, par exemple, pour lever un peu la foule. Là, ça fait quand même 3 ceintures à NXT. Ça, c'est du coup la ceinture nord-américaine, elle sert pas à grand chose. Les mecs, où est-ce qu'ils vont aller avec cette ceinture cruiserweight? Là, il y avait une histoire intéressante avec le fait qu'il y ait 2 champions de chaque côté. Ça, c'est un bon coup aussi de faire débarquer Kushida comme ça direct le lendemain. Mais après, pour la suite, ça risque d'être assez plat quand même. À moins qu'ils volent le show à chaque fois. Mais bon, après, il faut rester dans la limite de taille. Il va avoir des adversaires à sa taille. Kushida, moi, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, hein, que j'ai beaucoup suivi à la New Japan, qui a fait des très très gros matchs au Japon. Effectivement, il utilise des soumissions, mais c'est vrai que généralement, c'est un catcheur qui va travailler le bras, par exemple, ou la jambe. C'est ce genre de catcheur, quoi, qui fait pas des spot fest, qui est plus un peu plus psychologique, où il raconte une histoire à chaque fois dans ses matchs. Donc, je pense qu'il a le réflexe comme ça à chaque fois d'aller travailler la jambe ou le bras de ses adversaires. Ben non, voilà, moi je suis content effectivement qu'il ait plus de jeans. Là, c'est vraiment ce qui m'a le plus intéressé dans le show, hein, cette histoire autour de la ceinture cruiser. J'aime bien les catcheurs qui sont impliqués. Escobar, moi, je trouve que c'est un très bon catcheur aussi. Aussi quelqu'un qui a de l'expérience. C'est des mecs, ils ont même pas trop leur place à NXT parce qu'ils ont déjà des carrières quand même importantes derrière. Escobar, il a l'habitude de catcher à la télé, hein. Il était à Impact, à la Lucha Underground. Kushida, il a une telle expérience derrière. Voilà, Jordan Devlin un peu moins, certes, mais bon, bah, on verra la suite. En tout cas, c'était sympa de voir une grosse victoire de Kushida, et puis il y avait ce côté un petit peu grosse surprise. Ça, c'est ce qu'on aime bien voir quand même dans un show de catch, quoi. Donc, on était sur de bonnes rails.
Ça, je l'ai pas vu venir. Ouais, hein.
Hein, voilà. Écoute, une petite surprise comme ça. Ça, c'est bien joué. Autre surprise, Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher, qui sont l'un à côté de l'autre, assis dans une salle. En fait, ils sont une tag team et ils lancent un défi à MSK. Hein, Ciampa se lève, il fait tomber sa chaise. C'était pas très réussi.
Non.
Ouais, je sais pas, t'en penses quoi de cette alliance?
Bah, deux choses. Bah, alors, l'alliance, elle date d'avant TakeOver, hein, c'était suite à leur match où ils s'étaient foutus sur la gueule.
Ouais, c'est ça,
ils sont pas une alliance, potes. Mais Thatcher avait disparu. Mmh. Et justement, l'arrivée d'Imperium, alors, il disait que c'était Imperium qui l'avait capturé. Je pense qu'il y a eu certainement un cas Covid ou un cas contact qui fait qu'il a été retiré des écrans pendant quelques temps. Mmh. Et là, il revient, et du coup, bah, on parlait du gars qui tourne en rond, je vous présente monsieur Tommaso Ciampa, qui a commencé en tag team, qui a fait à peu près tout, puis qui repart en tag team.
Ouais. Il se casse avant la fin des promos, maintenant.
Il se casse avant la fin des promos, il nous fait le riddle, là. Et puis pour le coup, je pense pas qu'il encadre, tu vois, je parlais de Gargano qui encadrait au moins Théorie. Mmh. Ciampa, il va pas encadrer, Thatcher qui est plus vieux que lui. Donc je ne sais pas trop. Alors peut-être qu'effectivement, voilà, ils vont peut-être permettre à MSK de se faire une première grosse rivalité.
Ouais.
Mais bon.
Si on peut, il faut le faire monter. Hein. Je veux dire, il a ce qu'il faut quand même pour faire quelque chose dans le main roster.
Est-ce qu'ils sont capables de monter, c'est pépère, hein.
Ben, c'est ça, hein. Ils ont l'air de s'encrouter à NXT, mais je pense que c'est parce qu'on leur donne pas vraiment le choix. Hein. Là, visiblement, à l'heure actuelle. C'est pas trop la mode de monter de NXT dans le main roster. Hein. Il y a un stand-by. Ils sont là plus pour jouer les encadrants avec les nouveaux catcheurs, mais ils ont tellement une position de star du show que tout ça n'est pas très cohérent. Hein. Et Timothy Thatcher, je ne sais toujours pas pourquoi ils l'ont embauché et qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Hein.
Ouais, à moins de travailler avec les...
T'aimes bien, toi? Mais tu le vois dans le main roster avec son catch de soumission, là? Il m'ennuie dans le ring.
Moi, je pense qu'il fait un an, tu vois, un an, et puis où il fait un peu la brute épaisse, qui parle pas trop, puis qui fait des grosses soumissions, qui fait très peur, puis une fois qu'il a perdu son premier match, il disparaît totalement. Mais il peut, tu sais, t'as toujours des gars comme ça qui arrivent et puis qui semblent abattables, et puis qui sont ultra violents, puis cas qu'il se fasse latter par le big babyface. Tu mettrais contre un Drew ou un machin pour l'occuper pendant 2-3 mois. Comme on fait des Kozlov, comme on fait des trucs comme ça. Et ça fait l'affaire, je pense.
Il ferait un bon champion 24-7.
Ouais, bah après, il va danser avec un.
Voilà. on va voir ce que. Là, visiblement, ils partent pour aller affronter Miskin. Donc. On va voir ça. Et ça va être sûrement un bon match. Quand même, les quatre là dans le ring, ça peut être sympa. Ouais, Thatcher, techniquement, il est fort, mais il m'ennuie, moi, dans le ring. Mais c'est bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, Dakota Kai nous présente la nouvelle championne, Raquel Gonzalez, qui a gagné à NXT TakeOver avec son grand sourire quand elle débarque, là. Ça fait plaisir. Elle revient un petit peu sur sa carrière. Elle nous rappelle son faux départ, la première soirée de NXT sur la chaîne USA, où elle devait catcher, puis finalement elle n'était pas prête. Alors finalement ça s'est pas fait. Elle s'est beaucoup entraînée. Maintenant elle est la championne. Elle remercie Dakota Kai qui l'a soutenue pendant tout ce temps. Et elle envoie tout son respect à Io Shirai, qu'elle a battu à NXT TakeOver. Hein, oui, parce que Raquel Gonzalez a battu Io Shirai en main event de la première soirée de NXT TakeOver. C'est l'ère de Raquel Gonzalez qui commence officiellement. Mais là, les lumières s'éteignent. Qu'est-ce qui se passe ? Une challenger qui débarque. Et c'est une personne qui avait été annoncée via des spots les semaines précédentes. Des petits spots vidéo. C'est Frankie Monet qui débarque avec son petit chien. Alors Frankie Monet, c'est Taya Valkyrie en fait, pour ceux qui connaissent, qui avait, je crois, suivi la Lucha Underground. Elle était à Impact aussi. C'est Madame John Morrison, si je dis pas de bêtises.
Il me semble aussi.
Voilà. Et elle débarque au ring avec son jogging de soirée, son petit toutou, car elle vient avec son petit chien, effectivement. Et puis en gros, elle vient défier Raquel Gonzalez. Hein, elle lui dit félicitations, mais maintenant moi je suis là et tu vas me voir assez souvent, je te préviens. Voilà, Raquel Gonzalez, elle lui dit tu ferais mieux de quitter le ring quand même, sinon je t'enfonce ton chien là où on voit pas souvent la lumière.
Oh.
Et voilà, hein, on fait pas dans la dentelle du côté de Raquel Gonzalez. Et ensuite, attention les yeux. C'est qui débarque, Rhea Ripley et Bianca Belair, et elles sont contentes et elles font la célébration. On voit des photos d'elles quand elles étaient jeunes et elles lèvent chacune leur ceinture puisqu'elles sont toutes championnes désormais. Hein. Rhea Ripley est la championne de Monday Night Raw, Bianca Belair la championne de SmackDown et elles sont toutes les trois pour faire la fête avant la coupure pub. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Ouais, c'est mignon tout plein. Les copines, elles font la fête.
Elles ont l'air tellement heureuses.
Voilà. Bon, après, je vais pas non plus. On a eu des segments dans le passé avec des fleurs offertes par Triple H ou par Stephanie McMahon. C'est des petits cadeaux faits aux fans des Feel Good Moments. Comme je disais, tout le monde est un peu face après un takeover. On a eu avec Karen Cross, un peu avec notre ami Escobar. Là, pour le coup, je me demande si elle n'est pas vraiment en train de le devenir, Rachel Gonzalez. Parce que mine de rien, les filles qu'on lui propose pour la suite, que ce soit Mercedes Martinez qu'on a vu en début de show ou Monet, je sais plus comment on prononce, c'est pour le coup ça a l'air d'être plutôt des vrais heels. Donc je pense qu'effectivement là, on va peut-être se passer vers le face turn comme tu disais organique de tout à l'heure. Par contre, Frankie Monet là, je sais pas, personnellement j'ai jamais vu catcher, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut. Mais je trouve qu'elle a un physique particulier là, c'est un peu, j'ai envie de dire, à la Tamina là, tu sais, l'espèce de cube. Je sais pas, du coup elle est un peu powerhouse comme style ou
un peu écoute, les fois où je l'ai vu catcher, moi j'ai rien trouvé de très convaincant. Ouais, donc c'est plutôt elle est costaud quand même, hein. Donc c'est, je pense que ça va jouer en sa faveur dans un affrontement comme Raquel Gonzalez qui est quand même sacrément costaud aussi de son côté, mais plus affiné, on va dire.
Oui.
Oui, c'est pas vraiment quelqu'un que j'attendais beaucoup, hein, Taya Valkyrie. Mais je sais qu'elle a beaucoup de fans, donc on verra ça pour la suite. C'était voilà, grosse carrière dans l'indie. Maintenant, on sait ce que ça vaut une fois qu'on arrive à la WWE. Donc là, on va juger sur pièce, hein, honnêtement.
Attendons de voir.
M'avancer. Voilà, je ne vais pas trop m'avancer. En tout cas, elle a un joli petit toutou. Hein. C'est très mignon.
Ah, ça, on l'a beaucoup, son chien. Hein.
C'est, voilà. Il ne faudra pas qu'elle vienne sans le chien. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il arrive à garder son calme comme ça au milieu du bordel.
Bah, il est bien dressé.
Il est bien dressé, tout simplement, c'est ça. Ouais, voilà, Raquel Gonzalez, magnifique avec son sourire. Ça fait une très bonne babyface, hein, évidemment. Donc, pourquoi pas rester sur cet alignement. Puis elle a gagné clean. Hein.
Ouais, ils ont du mal à garder les gens heal, hein, je trouve, à NXT, quoi, mine de rien. Parce que Rhea Ripley, elle devient championne, elle devient face. Yoshirai, elle devient championne, elle devient face. Raquel Gonzalez, elle devient championne, elle devient face. Elles sont un peu trop contentes, les filles, t'es un peu trop content pour elles, et du coup, bah, t'as tendance à les. Là encore, les trois là, qui étaient là ce soir, à l'origine, il y a bon, si Bianca Belair était passée face depuis un bout de temps, mais par contre, les autres étaient plutôt récemment heal. Et puis tu les vois super contentes avec des grands sourires. Bon, bah.
Ma foi. Ouais, alors enfin, après. Voilà,
c'est l'école de développement, hein, Nexi. Donc on...
Alors, cette célébration là, moi je comprends que ça peut plaire à certains fans, mais pour la première soirée, sans concurrence. Je trouve que ça tue un peu le rythme du show. Et puis, pour les gens qui venaient découvrir peut-être NXT, je sais pas s'ils ont... si ça leur parle vraiment de voir ces 3-4 choses-là célébrer ensemble, parce que de toute façon, on les reverra plus, quoi, Rhea Ripley et Bianca Belair. Ça aurait pu être plus court, hein, honnêtement. Ou je sais pas, une vignette où on les voit faire la fête, mais enregistrée, quoi. Là, les faire venir dans le ring pour faire ça... C'est du fan service. Fan service, voilà, comme on dit.
Exactement.
Pas un très bon point. Pete Dunne nous fait une petite promo où il nous dit qu'il va aller chercher le champion. Enfin, du moins, il vient chercher un championship.
Ouais, bah, bolé pour le coup, je vois bien la division Cruiserweight. Je suis pas sûr s'il est à moins de 205, vu qu'il est technicien, vu qu'il s'en est passé avec Kushida. Donc il fonce dans la division Cruiserweight, je pense c'est pareil, il tourne en rond lui, donc qu'il aille se défouler là-bas.
C'est ça, parce que je crois qu'il a déjà affronté Gargano, hein, si je dis pas de bêtises.
Certainement.
Ouais, donc,
Gargano, il a affronté tout le monde de toute façon.
Ouais. Pff, après Pete Dunne aussi pour aller dans le main roster. Hein. C'est des gens qui sont prêts, ça. William Regal nous parle de la nouvelle arrivée de NXT, le nouvel achat. Du côté du Japon, c'est Sarai, je crois qu'elle s'appelle. Je crois pas, je suis sûr, mais peut-être que je le prononce mal. Donc, c'est The Warrior of the Sun. C'est une catcheuse qui a bossé donc, au Japon. Hein, le Joshi s'est quand même pas mal développé là-bas. Notamment à la Stardome, hein, je crois. Donc, ben voilà, hein, on a eu Asuka, on a eu Yoshirai, Kairi Sen, voilà, tout ça, ça a bien fonctionné. Pourquoi ça fonctionnerait pas pour Sarai? Donc, il y a une belle réputation derrière elle.
Ouais, ils font les recrutements des tops. Enfin, après, je sais pas si elles sont toujours au top au Japon au moment où elles partent, mais globalement, c'est à chaque fois qu'ils ont des gros noms à chercher, ils vont au Japon, quoi. Ils prennent plutôt du gros niveau à chaque fois.
C'est vrai. Bah, c'est une bonne école, hein, le Japon, forcément. Donc, il n'y a que la All Elite Wrestling qui vient acheter les nazes, quoi. Mais... WWE, prennent le haut du panier. Bon, bref.
Les restes.
Voilà, ils prennent ce qu'ils peuvent. Hein, parce qu'elles ne sont pas gratuites. Pourtant, ouais, elles doivent pas être très chères, les japonaises, non plus. Hein. Mais bon, chacun son choix. Alors, Roderick Strong, qu'on avait vu arriver... avec son nouveau style là, tout propre sur lui et avec sa femme. Et ben il arrive dans le vestiaire dans le bureau de William Regal et ni une ni deux il baisse un petit peu la tête puis lui tend une enveloppe et il dit ben voilà, je suis fini. Bon, Regal, il a dit bon, bah écoute, si jamais t'as besoin d'un job, contacte-nous quand même, on te trouvera bien un truc. Et puis voilà, il va aller pointer à la NPE. Ce bon vieux de Rodrigue.
Ah, bah,
j'ai bien compris. Bon, apparemment, il fait qu'il y a une histoire de AD.
S'il montre, c'est qu'il y a quand même un angle. Je pense que ce soit le meilleur truc, tu vois. Attention, je débarque, là, je me suis fait la TNXT et je vais débarquer dans le main roster.
Ouais. Alors maintenant, il vient accompagné de sa femme. Hein. Donc apparemment, c'est fini l'histoire des Four Horsewomen du côté de Ronda Rousey. Maintenant, elle fait la potiche avec Roderick Strong.
De toute façon, l'autre, elle fait plus de catch, je crois. Elle fait des jeux vidéo.
Ah bon, elle a laissé tomber plus mal, hein, parce que ça allait pas bien loin. Je sais plus comment elle s'appelait.
Duke, on s'en passera. C'est laquelle, Duke.
C'est non, bah non, c'est l'autre alors. C'est l'autre. Jessamine Duke. Ah, ouais. Ouais. Elle avait un physique bizarre, elle. Elle devait fumer du crack contre Four Horsewomen, mais c'est pas grave. Hein.
Non, bah vu le niveau, franchement, c'est... on va pas s'en plaindre.
Hein, voilà, hein, on a. Shayna Baszler, c'est bon, ça suffit. Des gros matchs de la soirée. C'est donc Isaiah Swerve Scott contre Leon Ruff. On en a parlé avant. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Hein. Ils ont fait un spot fest qui a duré un bon moment. Et puis finalement, c'est Swerve Scott qui a gagné. Et puis après, dans les vestiaires, il se fait interviewer puis il se fait attaquer une nouvelle fois par Leon Ruff. Donc c'est pas fini. Je pense qu'il y aura un match sans disqualification. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça?
Alors là, je m'en fous complètement. Là, pour le coup, là, les deux, je ne sais pas ce qu'ils font là. Hein. Ils sont pas du tout intéressants, ni l'un ni l'autre. Deux petits maigrichons là. Swerve Scott en plus. Alors, je le regardais un peu plus parce qu'à un moment, il était autour de la du titre Cruiserweight peut-être. Je sais même plus ce qu'il faisait, mais de toute façon, je trouve qu'il est mauvais lui, comme pas possible. Il me fait penser à Ruby Riott dans le sens où quand je le vois catcher, je vois que le catch est faux.
Ouais.
Et ça m'énerve. Donc, j'ai sincèrement. Je me souviens d'aucun moment dans ce match-là parce que je crois que j'ai dû faire autre chose pendant le match tellement je n'avais rien à faire.
Ouais, non, mais c'est... Ouais, alors moi, j'aimais bien Isaiah Swerve Scott au début, mais effectivement, comme tu dis, il a ce catch, de Spotfest où il n'y a rien qui est crédible en vérité. Et Leon Ruff, c'est la même école, hein, ils sont entraînés auprès des mêmes. Donc ça, effectivement, ça fonctionne bien dans l'indie. Si vous avez jamais vu des matchs comme ça, ouais, vous allez trouver que c'est impressionnant. Mais en gros, c'est deux gringalets qui s'affrontent et puis c'est pas crédible 30 secondes quoi. Donc effectivement, moi non plus, je suis jamais rentré dans le match. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi on leur donne du temps d'antenne à ces deux-là parce qu'ils en feront jamais rien l'un comme l'autre. Hein.
Ouais, mais c'est la soirée de la low card.
Carrément,
ils ont tous du bon temps d'antenne. Parce que là, il y a eu 11 minutes 5 de match quand même. C'est le deuxième plus gros match de la soirée. Hein.
Ah ouais,
juste derrière le Kushida Escobar.
Ça semblait interminable en tout cas. Et ouais, même tout voilà, tout ce qu'ils peuvent déployer, l'autre il saute partout, c'est rigolo, mais ça, aucun impact. Non, ça c'est vraiment, il faut qu'ils passent à autre chose. Hein. Ça c'est pas bon du tout de donner du temps d'antenne à ces deux-là. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire du All Elite Wrestling en fait, avec deux mecs. Bah t'as deux abeilles dans le ring qui se battent pendant normalement. Leon Ruff, il aurait dû se faire exploser en 5 secondes, quoi. Mais non, il faut qu'il montre un peu comment il s'est catché, machin, donc ça prend une plombe. C'est les trucs qu'on voit à Dynamite, ça, hein, que j'aime pas déjà. Ouais.
Donc, le booking est un peu école des fans, quoi. C'est-à-dire que même si on te connaît pas, t'es pas très bon, on va quand même te donner minimum 10 minutes. Allez, pour montrer ce qu'on sait faire. Ouais, c'est vrai que c'est.
Ouais. C'est l'école indie, hein. Ouais, c'est ce qu'on avait aussi dans les. Dans les shows de la guérilla pro wrestling, ça existe ce que je dis là.
C'est pas la pro guérilla, non?
Ouais, je sais. Bah tiens, je suis en train d'oublier. Si la PWG là, voilà, j'avais regardé quelques shows de ça à l'époque. Effectivement, t'avais que des matchs d'une demi-heure, pareil, avec parce que c'était les mêmes genres de gaillards hein, qui étaient là. Il y avait des ricochets, des choses comme ça, les Roderick Strong et des trucs, mais tu tapais aussi des matchs comme ça, interminables, où ils savent pas faire un squash, quoi. C'est une belle perte de temps, et je suis pas sûr que ça aide les ratings, même si, bon, apparemment, les gens aiment bien, hein, puisque la All Elite Wrestling a quand même bien cartonné, là. Qu'est-ce qu'on a ? Zoé Stark, qui est interviewé backstage. Et elle est confrontée par Mercedes Martinez. Donc là, il y aura peut-être un autre affrontement en devenir, Mercedes Martinez sur tous les fronts. face à la nouvelle, puis... là, Zoé Stark, qui avait fait le pré-show de TakeOver.
Oui, qui, moi, m'a fait forte impression. Je sais qu'à Tonton aussi. Pour le coup, là, il y a du... Il y a de la fille qu'on a envie de voir progresser à NXT, là. Celle-là, je me dis, j'ai envie de voir ce qu'elle va donner sur l'année à venir. Elle va certainement perdre quelques matchs pour histoire d'apprendre, on va dire, en tant que nouvelle. Mais très rapidement, je pense qu'il peut en faire quelque chose.
Elle a battu Tony Storm, quand même. Dans le pré-show. Ouais, bon, moi, je suis moins emballé que vous, mais j'aime quand même voir des nouvelles têtes à NXT, parce que c'est ça le concept de base quand même, et du coup je vais pas bouder le truc, et on va regarder ce que ça donne, un peu l'évolution de cette catcheuse là, même si généralement comme d'habitude ils gèrent mieux les filles que les mecs.
Oui.
Parce que le main event, donc voilà, on a 2-3 gars qui devraient être, enfin on a déjà 2 gars qui devraient un peu même 3 hein, puisqu'on a Dexter Lumis, Bronson Reed d'un côté, accompagné d'Ember Moon et Chelsea Blackheart, donc c'est le match intergender hein, dont je vous avais parlé, et de l'autre The Way, donc Johnny Gargano, Candice LeRae, Austin Theory et Indy Hartwell de l'autre côté. Voilà, ouais, comme je disais, Dexter Lumis, Bronson Reed et Austin Theory, normalement c'est les mecs que tu devrais être en train de travailler à fond, quoi. C'est les mecs qui devraient être peut-être pas dans le main event, mais au moins faire les openers, les trucs comme ça. Là, ils font les cons. Bon, ils sont dans le main event, mais ils font les oui. cons. Donc, ça, c'est pareil. J'ai pas réussi à m'intéresser au match. Ce que j'ai cru voir, c'est que Indy Hartwell, donc il y a un crush sur Dexter Lumis à un moment, elle fait semblant d'être dans les pommes. Et Dexter Lumis, il va la prendre dans ses bras et la ramener jusque dans les vestiaires. Elle est contente, elle fait un petit clin d'œil à la caméra, elle a réussi son coup. Et puis le match continue et au final c'est Bronson Reed qui fait le tombé et qui gagne le match hein. Après un gros splash il me semble.
Oui, après que tout le monde soit passé sur le pauvre Austin Theory.
D'accord, il s'est mangé tout le monde. Ok. Ok, ok.
Et le clown de service à mort Austin Theory là. Dans ce match
c'est
là,
vrai. Il... Ouais, bah il s'était fait toper par la brigade, je crois qu'il paye le prix encore pendant un moment. C'est dommage parce que je trouve qu'il catche super bien et qu'il a un physique quand même. Qui fait enfin, le
lui,
job.
Il a un physique de main roster, effectivement.
Bah voilà. Bah, il était à WrestleMania hein, l'année dernière. Il l'avait appelé en catastrophe. Mais bon, il s'est fait toper par la brigade juste après. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event, moi, qui m'a passé au-dessus hein, complètement. C'est vraiment pas ce qui m'intéresse, ce genre de choses.
Alors, je vais. En fait, si j'oublie que c'est le main event, au final, j'ai passé un bon moment parce que. Bon, enfin. Ils m'ont fait assez rire, ces couillons à faire leur truc. C'est pas. Mais par contre, tu vois, c'est le problème, c'est que c'est le main event et ça me fait marrer, tu vois. Donc, ouais. Je sais pas si c'est vraiment la bonne chose. En plus, il y a plein de gars que j'aime bien dans ce match-là. J'aime bien Austin Theory, Bronson Reed, Ember Moon, Dexter Lumis. Voilà, pas mal que j'aime bien. Mais bon, est-ce que c'est censé être un main event? Enfin, ça a duré comme 10 minutes, hein, donc la farce.
La gaudriole.
La gaudriole. Bon, après. Je me dis aussi que des gars comme Austin Theory et Indy Hartwell, bah, ils apprennent aussi le métier à faire de la comédie, à faire du catch, à faire un peu de tout. Ça dépend. En fait, si je prends dans le sens, c'était une leçon d'apprentissage à faire un petit peu de main event, un petit peu de blague, un petit peu de tout, bah, ça passe, tu vois. Après, si je me dis, c'est un show de catch, nanana, il faut que le main event ce soit le top de la soirée, bah, là, on n'y est pas parce que bah, c'était un truc intergender avec la moitié des catcheurs qui font les comiques. Mais bon, par contre, il y en a qui m'inquiètent. Moi, c'est Dexter Lumis. Hein. Je trouve que il fait rien en fait. Ça fait longtemps qu'il fait rien. Et quand il est dans le ring là, bah, il fait juste le bouffon à jouer avec Austin Theory et Indy Hartwell. Quand il avait eu la bataille royale là pour la qualif pour TakeOver, bah, il était resté tout du long sans bouger jusqu'au finish. À TakeOver, il se fait éliminer le plus rapidement, je crois, parce qu'il rentre et il sort quasiment tout de suite derrière. Soit ils savent pas comment le booker parce qu'il a vraiment un physique un peu particulier par rapport aux autres. Puis, il a un statut un peu comme Karrion Kross finalement, qui est deux mecs que tu peux pas faire trop perdre tout ça. Mais sauf que lui, bah, il fait rien. Il se bat pas, il gagne pas. Enfin, il fait rien. Donc je ne sais pas à quoi ça sert de le garder dans NXT pour en faire ça. Bah, en même temps, s'ils montent et qu'ils font la même chose, bah, je ne vois pas non plus ce qu'ils vont faire, quoi. Donc, je m'étais dit, on va peut-être le ramener dans un truc à la Wyatt, tu sais, genre, en tant que, tu le gardais en tant que bodyguard de Wyatt, ça permettrait, bah, qu'il fasse pas grand-chose, mais qu'il puisse être impressionnant quand on lui demande d'être impressionnant. Mais par contre, je sais pas ce qu'il apprend, là, vu qu'il catche jamais. Je m'inquiète
Bonne
vraiment pour lui.
question. Ouais, je sais pas non plus où ils veulent en venir. C'est assez bizarre d'avoir un personnage de psychopathe, mais là pour faire la rigolade, quoi. Je sais pas si ça peut aller loin. Effectivement, il montre vraiment rien dans le ring. Comme tu dis, il fait rien en fait quand il est là. Ouais, je sais pas. C'est un mec qui a une carrière quand même déjà assez longue à Impact. Quelques années, il a affronté Kurt Angle et des trucs comme ça hein, à l'époque. Il est revenu ici, mais ils ont pas l'air de savoir quoi en faire. Et c'est le gros problème d'NXT, je sais pas. Ouais, qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qui, parce qu'il reste bloqué en plus sur son personnage, qu'il avait déjà quasiment le même personnage à Impact il y a des années. Ça évolue pas et voilà, ça n'a pas de sens. C'est bizarre.
Il était encore intéressant ses débuts NXT, hein. Mais là il a
Bah
fait
ouais.
enchaîner une feud avec Cameron Grimes qui était totalement inintéressante. Et derrière il tourne à faire le bouffon avec les Gargano. Donc ça fait comme des mois maintenant qu'il fait plus rien du tout quoi. Donc ouais, je sais
Généralement,
pas.
ça finit pas bien, hein, ces carrières-là. Hein. Il va peut-être retourner dans le tréfonds, mais bon, on sait pareil. On va attendre, voir ce qui se passe. J'avoue que j'aime bien Indy Hartwell, moi. Je la trouve mignonne, en fait, je pense que c'est tout. Mais
Et
elle
elle
a
est
l'air
là
d'apprendre
pour apprendre, hein, celle-là. Donc,
aussi.
elle, pour le coup, je comprends qu'elle soit avec les Gargano et compagnie pour bah, apprendre les bases, en fait.
Ouais, c'est ça. Sortie de nulle part, comme ça. Non, puis elle a un physique aussi costaud, mine de rien. Donc,
Oui, elle est assez grande, hein. Assez,
ouais.
assez grande, assez lancée, hein.
Ouais, c'est ça. Ça peut le faire aussi, je pense, pour elle. Même si je comprends rien non plus à cette romance-là avec Loomis. Mais bon. J'ai peut-être pas vu assez d'épisodes, hein, faut dire.
Non, mais ils avaient fait des. Ouais, effectivement, ça fait un bout de temps qu'ils jouent là-dessus. Notamment quand ils avaient tous été chez le psychologue où elle montrait qu'elle fantasmait à mort sur lui. Mais bon, c'est
Ouais.
pas. Bah, c'est tout ce qui tourne autour de Zoé, c'est pas. C'est le fond du panier, hein. C'est pas non plus.
Ouais.
C'est loin
Mais
d'être
pourtant,
passionnant.
ça fait le main event.
Oui, bah, c'était. Mais c'est le main event d'un NXT qui était dédié à l'Holocard. Donc je trouve qu'il est
Voilà.
totalement adapté.
C'est pas fou, c'est vrai. Mais ils étaient quand même à NXT TakeOver, quoi. C'est pas comme si on leur avait donné une séance de rattrapage, quoi. Mais
Oui,
bon.
c'est vrai.
Je sens quand même la volonté de faire un peu de la copie de Dynamite en faisant de la
Avec des
Gold
main events
Label.
pourris.
Ouais, des main events pourris, des trucs rigolos. On se prend pas au sérieux, etc., etc. Alors ça plaît à beaucoup de gens, mais alors moi c'est pas du tout ma tasse de thé. Hein. Bah, du coup on va passer au mot de la fin de ce show en demi-teinte, j'ai envie de te dire. Le top flop note, mon bon papy.
Ouais, c'est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué. Je pense que nos auditeurs l'ont compris quand on a, au fur et à mesure qu'ils entendaient la review, il y a quand même beaucoup de choses vraiment pas terribles parce que c'est du fond de carte, en fait, qui nous a été présenté. Hormis le Kushida Escobar, tout le reste, c'est du fond de carte, en fait. Drave Maverick, Killian Dane, Jessica Maia, Isaiah Swerve Scott, Leon Ruff, The Way. Enfin, bref, ouais, c'est fond de carte, quoi. Donc, je ne sais que dire. Je vais me réjouir de la vie dans la Cruiserweight Division avec Kushida qui débarque. Peut-être, je l'espère. Ah putain, Pete Dunne qui va débarquer aussi. Donc je vais donner mon top dans cet espoir-là d'avoir disons Cruiserweight qui vit après avoir fait un bon match à TakeOver.
Voilà.
Je me réjouis que cette division-là, elle prenne les bonnes personnes et puis les utilise. Donc ça c'est déjà bien et je suis content que Kushida arrête de tourner en rond. Mon flop, du coup, je ne sais pas. Si je le donnais sans souci à Scott contre Ruff, parce que, en fait, finalement, faire en sorte que je ne regarde même plus la télé, tellement c'est chiant, tellement j'ai pas envie de les voir, bah, c'est totalement contre-productif. Si j'étais abonné USA Network, j'aurais zappé. Voilà ce que j'aurais fait.
Voilà, mais c'est vrai.
Bah oui.
Mais
Et
bon.
du coup, ma note, bah, je donne un 2 quand même. Je peux pas descendre plus bas parce que final il y a quand même eu un match cruiserweight qui était de bon niveau et le main event bah, il m'a quand même fait un petit décroche un petit sourire donc je vais pas non plus totalement les abattre. mais je vais mettre un 2, voilà, parce que c'était insuffisant. Voilà. J'ai envie de dire insuffisant.
Insuffisant. Ouais, écoute, moi, je te rejoins sur tout, hein, à peu près. Le flop, je vais le donner effectivement à Isaiah Swarskov et Leon Ruff. Parce que moi, pour moi, c'est gaspiller du temps d'antenne. Hein. Je veux dire, ils ont un stock de catcheurs. Il y en a plein, hein, qui sont en attente de montrer leur gueule à la télé, là, au PC, au Performance Center. Et on donne la place à deux gars qui ont grillé la priorité à tout le monde, en plus, puisque les deux-là, ils viennent de la Evolve. Et je suis pas sûr qu'ils sont passés très longtemps par le Performance Center. Ça arrive souvent à NXT, hein, Gargano et Ciampa, ou même l'Undisputed Era. Effectivement, c'est des gens qui ont grillé la priorité à tout le monde, mais bon, c'était quand même des points
niveau.
Voilà, hein, ils étaient à la Ring of Honor, hein, l'Undisputed Era, ils avaient déjà une grosse carrière derrière eux, ils remplissaient les salles. Gargano, Ciampa, peut-être moins. C'est peut-être ça s'expliquait peut-être un petit peu moins, mais bon, ils étaient quand même assez convaincants à l'époque. Puis il y avait plus de... il y avait du haut niveau quand même à NXT à l'époque. Pour s'imposer, c'était pas si simple. Mais alors, par contre, Leon Ruff et Isaiah Swarskov, effectivement, je sais pas à quoi ils servent. On voit bien qu'ils feront jamais rien avec. Tu sais que Swarskov, il a même un podcast sur le Network. Hein. Une émission, j'ai déjà essayé de regarder, ça n'a aucun intérêt non plus. Voilà, j'avoue que je ne sais pas, je suis perplexe, je sais pas, il faut pas faire ça. Le top, je vais le donner à Kushida et Escobar, le championnat cruiserweight. Voilà, ça c'est ce que j'aime bien voir. Une ceinture, deux mecs qui se battent pour la ceinture puis qui font un gros match. Ça c'est cool. Et je vais mettre un 1 parce que honnêtement, passer la deuxième partie de la promo de Raquel Gonzalez quand les autres filles ont débarqué, tout ça. Et après ça a été que la dégringolade, je vois pas comment ils comptent espérer avoir plus de téléspectateurs la semaine prochaine avec un contenu aussi pauvre, quoi. Faites un spectacle qui pète un petit peu, pas le fond de là, on se croirait à Top 5 Live, quoi, hein.
Ouais, et puis un lendemain de Takeover, en plus, c'est étonnant qu'ils aient vraiment mis que le fond de carte, quoi.
Ouais. Enfin... Lendemain de Takeover, lendemain de Mania, premier soir où il n'y a pas de concurrence en face, c'était le moment de frapper un grand coup, quoi. Là, t'as des filles qui font une célébration autour de leur ceinture, dont deux qu'on ne verra plus jamais. Pour ceux qui n'ont jamais suivi l'émission, ça n'a aucun sens. Et derrière, t'as de la gaudriole et deux cruiserweight qui se... moins que des cruiserweight, hein, deux gars qui ressemblent pas à des catcheurs qui s'affrontent pendant un quart d'heure, c'est vraiment zéro, hein. Donc voilà, carton rouge au chaud jaune pour ma part.
On donne l'avis de tonton.
On donne l'avis de tonton, tout à fait.
Tu veux que je le donne?
Ah bah si tu l'as sous les yeux.
Ouais, j'ai sous les yeux. Alors son top, lui c'est Scott contre Ruff parce que c'est ses deux catcheurs préférés de la vie. Son flop, c'est Kushida et Escobar parce qu'il n'aime pas les luchadors de merde et les japonais à la con. Non, je déconne. Il a dit l'inverse,
oui.
Bien sûr, son flop, c'est Scoff et Ruff parce qu'il les aime pas et donc il les a pas regardés comme moi, comme nous.
Voilà. Kushida, un homme de goût.
Il est fan et il a kiffé la victoire surprise et le fait que en plus Kushida ait enfin pris une vraie tenue, donc il est super heureux.
Voilà.
Par contre, du coup, bah, je pense que cette victoire-là lui a vraiment fait chaud au corps parce qu'il a mis à 3,25 à ce NXT. Puisqu'en fait, il a kiffé tout du long et qu'il a même kiffé le main event avec Interpol qu'il a beaucoup aimé. Mercedes Martinez, ça, je sais qu'il l'a mis à Mercedes Martinez. Et le fait l'ait beaucoup vu, ça a dû beaucoup jouer. Et donc, en plus, et lui, c'est un homme sensible. Et donc, les trois champions ensemble avec la ceinture, là, ça a fait fondre son cœur.
Ah, bah voilà.
Donc, je
crois qu'il aime bien, il aime bien Taya Valkyrie aussi, donc.
Ah bah voilà, bah il a eu beaucoup de femmes alors.
Tout pour le, voilà, toutes les femmes pour Tonton. Et ben c'est franchement, c'est très bien. Que dire de plus ? On a fait le tour. Bah on espère quand même que ce sera mieux pour nous, hein, la semaine prochaine. Parce que là en plus on est au retour au show sans public, hein. Ça fait un peu mal aux dents, surtout le. Yep. Capitol Wrestling Center, c'est comme ça qu'on appelle ça.
CWC.
Voilà, CWC. J'aime pas du tout l'ambiance qu'il y a dans ce truc-là. Voilà, bah, on espère que ce sera mieux la semaine prochaine. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu.
Merci Ringside de m'inviter pour cette première en fait, cette enfin première non parce qu'elle a eu des NXT avant je pense, mais enfin ce renouveau de des reviews NXT solo.
C'est ça. Tout seul NXT, NXT Tuesday comme on appelle ça maintenant.
Ouais, et qui a réussi à finalement NXT même quand t'es tout seul il perd en fait. Hein, comme,
ouais c'est chaud quand même. Hein.
Il n'a pas besoin de la baston, il perd quand même. Bravo NXT. On sent.
C'était tellement la meilleure émission à une époque. Depuis que c'est passé à la télé, c'est la catastrophe, quoi. Ouais, alors bon, gardons le sourire. Je vous rappelle qu'on est dispo sur YouTube, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, c'est @catchupcdc. Toutes les news, les ratings, des conneries, des sondages, c'est ce que vous trouverez sur le Twitter. Vous nous trouverez aussi sur Facebook. Vous nous trouverez aussi sur Instagram. Vous pouvez venir sur Discord aussi discuter avec nous via l'invitation qui sera dans les commentaires sur la page YouTube. Et si vous êtes sur YouTube, ce serait bien de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, de mettre un pouce. Hein, on veut plein de pouces pour ce merveilleux show jaune. Et puis cliquez sur la petite cloche aussi pour être averti dès que ça sort. De toute façon, tout ça, c'est gratos. Hein, il faut le savoir, ça ne vous coûte absolument rien.
Profitez-en.
Voilà, profitez-en, ça va pas durer toujours. Un jour, on vous fera payer, mais pour l'instant, c'est gratos. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne pense pas. On se retrouve bientôt pour la review de SmackDown. Vous pouvez déjà aller écouter la review d'Euro si c'est pas le cas. Et puis toutes nos anciennes reviews aussi pour la semaine de WrestleMania. On a aussi un rétro catch-up qui vous parle d'un pay-per-view qui s'est passé il y a 20 ans, 30 ans, je ne sais plus.
C'était 20 ans, je crois.
20 ans, ouais. Et voilà, on revient dans le passé, n'hésitez pas à écouter ça. Et comme je le répétais, c'est gratuit. Bon papy, encore une fois, merci. Et puis, ciao, bye bye les amis, à bientôt.
Merci à toi, et puis salut à tous. Est-ce qu'Eva Marie va débarquer au prochain NXT?
Bah, c'est signé, hein.
Ah, putain.